Nous nous sommes mis en marche pour répondre à ce premier verbe qui ouvre cette phrase qui vous conduit vers votre chapitre général. Se mettre en marche, avoir pris conscience dans la parole de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament, que finalement on marche encore et on marche souvent. Aujourd'hui, nous passons au deuxième mot qui est ensemble. Marcher ensemble. Alors nous avons plusieurs cercles d'appartenance pour marcher ensemble. Vous avez tout particulièrement votre famille religieuse qui est un choix de marcher ensemble selon un environnement particulier, une manière en tout cas d'être sur cette route, un charisme comme on dit, une manière en tout cas d'exprimer cette marche auprès et avec des personnes particulières. Mais plus largement, plus globalement, votre congrégation est bien évidemment dans un autre cercle d'appartenance qui est l'Église. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'Église. L'Église, ce peuple en route. Ce matin, nous travaillerons, nous réfléchirons justement sur cette mise en peuple, sur ce que ce peuple signifie. Et cet après-midi, plus particulièrement sur l'Église. Évidemment, on ne peut pas parler d'Église dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout à fait ad hoc. Donc on en parlera avec la lecture du Nouveau Testament cet après-midi. De quand date l'Église? Qui l'a fondée? De quoi? De qui est-elle faite? Les Écritures parlent d'un peuple saint choisi par Dieu, mais aussi d'un troupeau, d'une épouse, d'une vigne, comme si Dieu avait besoin pour exister d'hommes et de femmes à conduire et à protéger, qu'il aime et qui l'aime. L'Église serait-elle donc, dès le départ, dans le projet de Dieu? Quel rôle Jésus, puis plus tard les femmes au tombeau, Pierre, Paul, ont-ils joué dans l'émergence d'une communauté de croyants, assemblés, inspirés par l'Esprit, et plus tard appelés l'Église? D'où vient-elle? De qui est-elle l'héritière? D'alliance en alliance, d'exil en retour à la terre promise, le peuple d'Israël avance dans une histoire parsemée d'embûches, on l'a vu hier. Mais renaît à chaque étape, c'est dans cette histoire que s'inscrit la naissance d'un nouveau peuple de Dieu, l'Église. En définissant l'Église comme peuple de Dieu, la Constitution Lumen Gentium de Vatican II se réfère directement au peuple d'Israël. C'est le numéro 9 de la Constitution, je vous le lis. C'est pourquoi Dieu s'est choisi Israël pour être son peuple, avec qui il a fait alliance et qu'il a progressivement instruit, se manifestant lui-même et son dessein dans l'histoire de ce peuple et se l'attachant dans la sainteté. Le peuple de l'Alliance. Le plus vieux rêve de Dieu, si tant est que Dieu rêve, pour ça je vous demandais si vous aviez bien dormi tout à l'heure, mais si Dieu rêve, son plus vieux rêve, c'est d'être en alliance avec l'humanité, être en lien, relié à elle, être dans une relation privilégiée et particulière d'alliance, en prenant des termes même d'épousailles. On l'a dit tout à l'heure, cette église, ce peuple, a plusieurs noms, dont le nom de la vigne, qui réjouit le cœur de Dieu, qui réjouit le cœur de l'homme, qui est ce vin nécessaire, en tout cas, pour manifester l'alliance, et bien évidemment aussi l'épouse, qui est aussi un nom qui a un lien direct avec ce thème de l'alliance et des épousailles. Donc le plus vieux rêve de Dieu, c'est l'alliance. Parmi toutes les acceptions du mot peuple dans la Bible, c'est celle du peuple d'Israël qui reçoit dans l'Ancien Testament ce statut particulier d'être le peuple de l'alliance, dans lequel le Seigneur entretient une relation privilégiée, en dépit de tout. De toutes les trahisons, de tous les écarts, de tous les retours, de tous les abandons, de tous les exils, en dépit de tous les péchés, de tout le mal, Dieu tient mordicus, je sais pas si ça se dit comme ça pour Dieu, mais au moins on se comprend, à cette alliance, à ce lien, à cette relation. C'est plus qu'un rêve, c'est une obsession. L'obsession de Dieu. Le Pentateuque le présente comme un peuple saint choisi par le Seigneur, Dieu de l'Alliance, parmi tous les peuples de la terre, consacré par lui pour être son bien propre, son héritage. C'est au chapitre 14 du Deutéronome. Tu es un peuple consacré au Seigneur. Ton Dieu est le Seigneur, et le Seigneur t'a choisi pour être son peuple à lui, parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Les textes prophétiques et les psaumes ne manquent pas de métaphores pour exprimer cette relation intime. Si le peuple de Dieu est considéré comme le troupeau choisi par le Seigneur, c'est le psaume 80. Sa vigne arrachée et replantée, Isaïe 5. Et même son fils qu'il appelle d'Égypte et qu'il chérit, Osée 11. Voir son épouse qu'il séduit à nouveau malgré ses errances, Osée 2. Un peuple donc aimé, choisi, chéri, choisi aussi avec une mission, le bien des autres. Les métaphores bibliques expriment la nature de ce peuple. C'est un peuple élu. Alors élu pourquoi? Choisi par Dieu. Non selon des critères humains, le nombre, la force ou le mérite, mais par pur amour. Deutéronome 7. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples, mais c'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères. Si le Seigneur s'est attaché à vous, sœur du calvaire, et vous a choisi, sœur du calvaire, ce n'est pas que vous soyez la plus nombreuse des congrégations, car peut-être êtes-vous la moins nombreuse d'entre les peuples, mais c'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères. Ce n'est pas l'appartenance à une terre ou l'attachement à un leader qui caractérise le peuple, mais un appel qui le précède et le transcende. Ce n'est donc pas par l'histoire qui fait le peuple, ce n'est pas l'histoire qui fait le peuple, mais Dieu qui se dote d'un peuple particulier. Au moment de l'exil à Babylone, le peuple dispersé loin de sa terre se souviendra d'avoir été créé par le Seigneur. Isaïe 43. Et se découvrira appelé à nouveau, modelé par lui, comme un nourrisson dès le sein maternel. Isaïe 44. Beau programme pour un chapitre, avec un temps de relecture sans doute que vous aurez à l'ouverture de ce chapitre, pour vous redécouvrir comme des nourrissons, comme un nourrisson dans le sein maternel, en tout cas dont Dieu veut prendre soin. Confiance. Plus encore, le Dieu qui a créé et recréé est celui qui se lie avec sa création. Je t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple. Isaïe 49. Je t'ai façonné, sœur du calvaire, et j'ai fait de toi l'alliance avec mon Église, avec mon peuple, avec tous ceux vers qui vous êtes envoyés. Dans l'Ancien Testament, les formules d'alliance courent comme des refrains. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Au terme de cette relation, tous sont engagés au point de l'alliance conclue dans le sang répandu sur le peuple et sur l'autel, Exode 24, qui se prolonge pour les fils d'Israël dans le sang de la circoncision, Genèse 17. Mais bien qu'identifié par ce signe dans la chair, le peuple de Dieu n'existe pas pour lui-même. Il est le témoin particulier de l'alliance de Dieu avec toutes les nations. C'est à nouveau en exil, au contact d'autres peuples, qu'Israël sera confirmé dans sa mission universelle d'être la lumière pour les nations. Moi, le Seigneur, Je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main, je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Isaïe 42. Dans la galaxie, dans la constellation des communautés religieuses, des instituts, des ordres, des congrégations, vous êtes, vous aussi, peuple choisi par le Seigneur. Non pas par un leader, le bienheureux Pierre Bonhomme, qui est votre fondateur, c'est pas lui. C'est pas lui qui est l'origine de tout, ce n'est pas vos œuvres qui soutiennent, ce n'est pas tout ça. C'est encore une fois cette main secourable du Seigneur, cet amour infini, cette obsession qu'il a pour son peuple et pour vous d'être en alliance. Et encore une fois, peu importe le nombre, le peuple d'Israël n'a jamais été nombreux. Peu importe l'histoire, peu importe l'éclat, peu importe le prestige, peu importe les forces, son obsession, c'est de faire alliance avec chacune d'entre vous. Une communauté de vie dans l'histoire, ce peuple. Bien que privilégié, l'alliance avec Israël s'inscrit dans la commune humanité d'un peuple avec son Dieu. L'Ancien Testament relate le cheminement d'Israël dans une histoire parsemée d'embûches, de l'accueil, de la double promesse faite à Abraham, une terre et une descendance, jusqu'à l'entrée dans la terre promise, en passant par la libération d'Égypte. D'une masse d'hommes fuyant devant Pharaon, naît un peuple guidé par un serviteur de Dieu, Moïse, qui le conduit par le don de la loi reçue au Sinaï. Sur cette terre, déjà habitée par les Cananéens, les descendants des patriarches ne restent pas un peuple informel. Ils se constituent en société organisée, en famille, clan, puis tribu, liés par un pacte d'alliance, dans le livre de Josué. Sera même réclamé l'établissement d'une royauté, comme toutes les nations, premier livre de Samuel. Mais le rapprochement avec les autres nations en reste là. Les liens de sang sont maintenus par la prohibition des mariages étrangers, le lévirat ou le droit de rachat. La préservation de ces privilèges n'empêchera pas la ruine de Jérusalem et la dispersion en exil. C'est dire que l'établissement sur la terre n'est pas le terme de l'histoire d'Israël, mais bien le point de départ d'une autre histoire, celle d'un peuple exilé, appelé à relire sa vocation divine parmi les nations. Entendre cette expérience du peuple, entendre ce passage où, encore une fois, on a l'impression que Dieu ne tient même pas ses promesses, parce que finalement, ce peuple-là, on lui promet une descendance, on lui promet une terre, et il passe son temps à être ballotté, à être en chemin, à être en exil, puis en exode. Enfin, on a l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses, même dès le départ, où il promet à Abraham une descendance nombreuse et le pauvre a de peine à avoir un premier fils. Peut-être que les promesses d'avenir, encore une fois, de nos congrégations peuvent nous inquiéter, ne pas apparaître comme évidentes, mais elles s'inscrivent dans un processus beaucoup plus large qui ne consiste pas à laisser simplement son nom, sa trace, son histoire, sa personnalité dans l'ensemble de la grande histoire de l'Église et du monde, mais de participer à la hauteur, à la force dont nous sommes capables, et que le Seigneur en tout cas nous appelle à vivre, pour être témoins de cette alliance au cœur du monde. Quelles que soient nos forces, quelles que soient nos histoires, quels que soient nos parcours. Et pas simplement une alliance passée, pas simplement une alliance existante pour ce qu'elle est, mais aussi dans une perspective d'une promesse d'une alliance nouvelle. Malgré l'infidélité du peuple, une nouvelle alliance est promise. Aux exilés, le Seigneur annonce, par l'entremise du prophète Jérémie, qu'il va conclure avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue bien que je fusse leur maître. Jérémie 31. Après l'aveu d'un point de non-retour, voici la promesse d'un retour à la vie. Un peuple nouveau naît de l'alliance nouvelle fondée sur le pardon des péchés antérieurs et le don d'une loi à venir, non plus écrite sur des tables de pierre, mais sur le cœur des croyants. Jérémie 31. Ainsi, le retour d'exil ne sera pas la réplique pure et simple de l'Exode, mais son accomplissement. Jusque-là, le peuple de Dieu n'était pas encore entré dans la promesse, l'expérience ancienne et la libération. Maintenant, tout cela est compris à travers ce retour en terre promise. Ce chapitre est aussi essentiel, et l'application de ce chapitre ensuite est essentielle pour refaire ce point, relire l'histoire depuis le précédent chapitre, voir peut-être les errements et les égarements, les promesses non tenues, les rêves qui s'effondrent, les communautés qui peut-être ont fermé, les forces qui se sont amenuisées, mais de se dire, dans la foi, quelque chose de nouveau va poindre, va se créer, va se mettre en place, une création nouvelle. En même temps, les frontières du dessein de Dieu s'élargissent toujours. Le peuple nouveau n'entre pas dans sa terre comme il en est parti. La promesse divine touche à son accomplissement. Les nations qui se joindront à Israël auront part avec lui à la bénédiction promise à Abraham. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 12. Comment allez-vous prendre soin et élargir aussi la famille calvérienne? Ces laïcs qui vous rejoignent, qui vous approchent, qui font aussi partie de cette bénédiction qui vous a été promise au moment de la fondation de votre congrégation. Comment vous associer plus largement encore toute l'Église, y être, y garder toute votre particularité, toute votre singularité, tout votre charisme, comme on dit, mais tout en s'ouvrant à la bénédiction plus large de ce peuple, plus large que vous-même, qu'est l'Église, qui peut se nourrir de votre spiritualité, qui peut s'appuyer sur votre expérience, qui peut participer à la bénédiction que vous avez reçue. La vie du peuple nouveau sera garantie par des institutions renouvelées, la loi inscrite dans les cœurs, dit Jérémie. Le Messie, fils de David, qui régnera sur toutes les nations. Alors ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Messie qui règne sur toutes les nations? Vous savez que Messie, ça veut dire frotter avec de l'huile, oindre, frotter avec de l'huile, Messie. Et le Messie, dans la Bible, il a trois caractéristiques. Il a trois, peut-être même quatre, c'est pour ça que j'hésite. On va dire trois plus une. Dans son histoire, le Messie, on avait imaginé le tout premier Messie, finalement, celui qui le premier a été frotté d'huile et reconnu du tout comme particulier, c'est David, le roi David, un roi. Le rôle du roi est de prendre soin de ceux qui lui sont confiés. Mais voilà, l'histoire de la Bible nous le révèle, les rois ont déçu le peuple. Et puis de rois, il n'y en a plus eu quand il y a eu la chute complète d'Israël et la déportation à Babylone. Alors, au moment où la déportation de Babylone a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, du coup, a quitté sa terre, était ailleurs, et des prophètes se sont levés pour lui dire « Messie, tu reviendras ». Enfin, Messie, c'est pas Messie, hein, c'est « Mais si, tu reviendras ». Tu reviendras, tu retourneras dans ta terre. Les prophètes ont fait leur travail de redonner courage, de redonner espoir. Si bien qu'on s'est demandé, mais est-ce que le Messie, et cette fois-ci la personne, ne serait pas un prophète? Et puis, le peuple est revenu dans sa terre. Les prophètes se sont tus. Par contre, on a retrouvé le temple avec les prêtres. Vous voyez, ça commence à venir. Roi, prophète, prêtre, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien voilà, nous sommes des messies, prêtres, prophètes et rois, inscrits complètement dans cette lignée-là qui s'inscrit, qui se fonde dans la parole de Dieu. Prêtre, prophète et roi, prêtre, en capacité d'être en relation avec le Seigneur par la prière notamment. Prophète, en capacité d'annoncer la parole, d'être en lien avec le Seigneur par cette parole presque d'égal à égal, en comprenant que c'est le lieu de l'alliance qui se manifeste, ou c'est le lieu de l'obsession de Dieu qui se réalise et notre réponse. Et roi, en prenant soin de ceux qui nous sont confiés. Vous avez commencé le carême, a priori, mes sœurs. Et on commence le carême avec cette triple invitation du jeûne, de la prière et du partage de l'aumône. D'accord? La prière liée directement à la fonction de prêtre. Le jeûne, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche du Seigneur, se rapproche de la dimension prophétique. Et l'aumône, c'est prendre soin de ceux qui en ont besoin. C'est la fonction royale. Prêtre, prophète, roi, vous allez avoir ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le trouve même dans le cadeau des mages, figurez-vous. Qu'est-ce que les mages offrent? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, on connaît mieux la légende dorée de Voragine du XIIe siècle que l'évangile et que la parole de Dieu. Donc on est là et on dit, ah ben oui, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. Très bien. L'or donné, c'est la fonction royale, le métal précieux. L'encens, c'est ce qui sert dans toutes les prières, donc la fonction de prêtre. Et la myrrhe, figurez-vous, que ce n'est pas pour embaumer les corps, comme on le dit parfois, comme Voragine, c'est pour ça que je le dis. La myrrhe, dans l'ancienne alliance, c'est ce que l'on offrait aux jeunes couples. C'est un cadeau que l'on offrait aux jeunes couples pour leur assurer la prospérité. L'alliance, c'est bien la dimension prophétique qui est rappelée, les prophètes qui passent leur temps à rappeler cette alliance que le Seigneur veut avec son peuple. Là encore, même avec les mages, on a prêtre, prophète et roi. Vous avez, nous avons, quoi qu'il arrive, j'essaye, vous avez compris, hein, j'essaye de nous ramener à l'essentiel de notre vocation commune et la vocation de ce peuple et de l'Église, qui sera toujours de prendre soin de ceux qui nous entourent en exerçant la fonction royale, d'être toujours en relation avec le Seigneur dans la fonction de prêtre par la prière, et puis d'être aussi dans ce lien avec cette parole qui nous habite, qui révèle cette alliance, qui révèle le rêve de Dieu. Ces trois dimensions-là sont tout le temps chahutées dans notre histoire. Prier, oh, vous savez, mon père, prier, j'y arrive pas, c'est trop long, c'est compliqué, j'en ai assez, là, 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 là. Prendre soin des autres, ah non, non, ça suffit, m'ennuie, m'embête, être gentil avec tout le monde, moi j'en ai ras le bol. La parole de Dieu, bon, oui, ok, je la lis, vous savez, je l'ai prié en église, c'est déjà pas mal. Ce qui est vrai. C'est pour dire qu'on est tout le temps dans cette tension-là de remettre en question un peu tout ça. Le temps du carême nous offre l'occasion. Le temps du carême, c'est pas pour qu'on souffre, hein. C'est pas un temps triste de carême où il faudrait souffrir, c'est pas le genre de notre foi. C'est simplement de nous recentrer sur ces trois piliers. De toute façon, le carême est dans l'Antiquité, et ça l'est encore vrai aujourd'hui. Vous savez que le carême conduit au baptême des baptisés du soir de Pâques, les catéchumènes actuellement, et puis pour nous qui sommes des baptisés depuis quelques années déjà, de nous refonder dans ce baptême. Prêtre, prophète et roi, c'est la vie du peuple nouveau. Dès lors, en vivant ainsi, nous l'espérons, nous le croyons, La nouvelle terre ressemblera à la première création. Cette terre naguère dévastée est comme un jardin d'Éden, et les villes en ruine dévastées et démolies, on en a fait des forteresses habitées. Ézéchiel 36. Sa capitale Jérusalem, avec son temple glorieux reconstruit. Ézéchiel 40. Deviendra le lieu du rassemblement joyeux de toutes les nations. Soyez plein d'allégresse, exultez éternellement de ce que moi, je vais créer, car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse. Isaïe 65. Le peuple de Dieu est en marche vers la fin ultime. Pour les chrétiens, ne préfigure-t-il pas la relation du Christ avec l'Église, du Christ avec votre congrégation? Il faudra que le nouveau peuple de Dieu, l'Église, renaisse à la foi pascale en faisant l'expérience de la croix victorieuse. Peut-être, ce n'est pas à moi de conduire votre chapitre, c'est l'Esprit Saint qui le fera, mais dans cette dimension où l'on prend conscience que l'on chemine ensemble dans des conditions particulières, poussé par l'Esprit, est-il peut-être intéressant de réfléchir à notre dimension baptismale, prêtre, prophète et roi, et comment, dans le charisme qu'est, que vous portez, que vous révélez, que l'Esprit a donné à votre congrégation, vous puissiez le révéler, le retrouver, le refonder, vous appuyer dessus, avec comme promesse, comme perspective, l'exultation d'allégresse dont parle Isaïe 65. Je vais vous distribuer quelques feuilles. Une série de questions pour le temps personnel qui va suivre. Suis-je conscient, consciente d'être privilégié, d'avoir été choisi par Dieu pour faire partie de son peuple? Est-ce que je me sens responsable de porter la lumière du Christ dans le monde? Comment est-ce que je peux approfondir ma relation avec Dieu et vivre une foi plus authentique? Suis-je capable de voir le Christ dans chaque personne que je rencontre, même si elle est différente de moi? Est-ce que je suis ouvert à la diversité et à l'accueil des autres? Comment est-ce que je peux contribuer à construire un monde plus juste, plus fraternel? Ai-je confiance en la promesse de Dieu d'un monde nouveau? Est-ce que je garde espoir même dans les moments difficiles? Comment est-ce que je peux vivre ma vie comme une marche vers la Jérusalem céleste? Prendrai le temps, non pas de répondre à toutes les questions, sauf si, bien évidemment, vous le souhaitez, mais une, deux, simplement de vous fonder là-dedans, quelque chose qui vous interpelle. Et avant ça, comme hier, je vous avais proposé un petit exercice, à savoir de ressentir vos pieds, ces jambes qui vous ont menés les uns vers les autres. Je vous invite pour marquer ce mot de ensemble à vous regarder les unes les autres, à vous regarder, à regarder votre voisine, à celle qui est près de vous, parce que c'est avec elle que vous cheminez. Prendre le temps de poser son regard sur l'autre, de la considérer, c'est avec toi que je fais ensemble. C'est avec toi que je fais communauté. Oh, je t'aurais peut-être pas choisi. Si j'avais eu mon mot à dire, je t'aurais peut-être pas choisi. Mais voilà, c'est avec toi que je fais ma route. C'est toi que je reçois du Seigneur. C'est toi qui es, oui, le cadeau que je reçois. Je n'ai pas prévu de te rencontrer. Je viens de la lointaine Côte d'Ivoire ou du Vietnam. Qui aurait pu croire, quand j'étais gamine, que je vivrais à Gramin un jour? Pareil pour vous. J'étais à Bourg-la-Reine, j'étais à Palaiseau, j'étais en Vendée, j'étais à du côté de Tarbes, j'étais. C'est avec toi qu'aujourd'hui, je crois que je marche vers la Jérusalem céleste. C'est avec toi aujourd'hui que je veux faire cette route pour que ce ensemble ait une signification vraie. Prenez le temps de vous regarder. Comme texte, nous allons prendre Jérémie 31, texte de méditation aussi, en plus ou à côté des questions qui sont posées, l'occasion de méditer, de prier, de conduire ce texte dans votre prière. Du livre de Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai pas leurs péchés. Je souhaite une bonne matinée. Cet après-midi, je vous inviterai à reprendre avec vous la petite feuille. On aura besoin, alors le verso est un peu flou, mais on reconnaît quand même à quoi ça ressemble. Je vous inviterai à l'amener avec vous pour le temps de contemplation. Donc là, nous sommes invités à vivre ce temps de réflexion et de prière, tranquillement, à votre rythme. Le prochain rendez-vous étant à 12h pour le repas. Je vous rappelle, un repas en silence. Bonne matinée.